Société avec Nick Payne.
Bonjour, très heureux d'être au microphone et de vous souhaiter la bienvenue à cette édition du samedi de Société. Aujourd'hui, nous discutons, nous allons chercher un point de vue libéral sur la situation actuelle avec William Corbatly. Ensuite, nous parlerons davantage d'actualité politique, de l'actualité politique de la semaine avec Steve Fortin et Frédéric Bérard. Puis, enfin, avec Yannick Marcil, économiste, nous allons revenir sur la question des paradis fiscaux ou plus exactement de l'aide gouvernementale qu'on peut donner à des entreprises qui ont recours à des paradis fiscaux ou qui font de l'évitement fiscal. On sait qu'une proposition de Québec solidaire, est venue à cet effet, inspirée de ce qui se passe en Pologne et au Danemark. Québec solidaire demandait au gouvernement de la CAQ de ne pas aider les entreprises qui ont recours à des paradis fiscaux. Quant à Justin Trudeau, lui, à Ottawa, il a été talonné sur ces questions-là. Il a plutôt pratiqué non pas l'évitement fiscal, mais l'évitement politique sur cette question. On y reviendra avec Yannick Marcil. Mais tout de suite, allons rejoindre un ami de l'émission. Il est avocat, médiateur, arbitre, conférencier. Il est impliqué dans la famille libérale au Parti libéral du Québec, mais davantage aussi au Parti libéral du Canada. Puis, ça faisait un moment qu'on s'était parlé. On avait envie de lui demander comment ça va dans le confinement et comment il voit cette crise. Bonjour, William Corbatly.
Bonjour, Nick Payne. Comment tu vas?
Oui, très bien. Vous aussi?
Très bien, très bien.
Alors, dans cette crise, dans cette expérience sociologique que nous vivons sans précédent, de façon très générale d'abord, là, avant qu'on aille sur la politique davantage, qu'est-ce que vous retenez de tout ça, vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est particulier, non, comme expérience?
Évidemment, oui, c'est très particulier. Dans mon pays d'origine, que j'ai vécu la guerre civile, et toutes sortes de crises.
Au Liban, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, au Liban. Mm-hmm. Évidemment, ici, c'est une crise d'une autre façon. C'est un ennemi qui est invisible. On sait pas grand-chose sur lui aussi. Tout ça, rester à la maison. Regarde, je sors aux 10 jours là, de la maison là, pour juste faire mon épicerie et revenir. C'est très, très particulier et ça touche tout le monde. Pas juste le Québec. Et ce que je retiens et donner une petite leçon là-dessus, c'est que ce virus ne discrimine personne. Peu importe votre origine ou religion, vous êtes touché quand même.
Ou statut social, soyez riche ou pauvre. Mais justement, il peut vous faire plus mal. Le confinement est moins agréable dans un 1,5 à Côte-des-Neiges que dans une belle grande maison à Ville-Mont-Royal ou Hansic.
Alors, j'espère que les politiciens vont apprendre au moins de ce virus de ne plus discriminer personne à cause de ces motifs-là.
Bonne. Alors, comme ils sont à l'écoute, on verra s'ils vous entendront, William Corbatly. Donc, vous considérez, vous, que il y a une prise de recul sur qui devrait découler de l'expérience actuelle sur nos débats des derniers mois, des dernières années, notamment sur la question de l'inclusion et du fait religieux, si je comprends bien. Vous dites que l'expérience actuelle devrait remettre tout ça en perspective et nous faire y penser à deux fois à l'avenir?
Oui, c'est ça. Pas juste ces deux. En principe, tout ce qui touche à la diversité, là, repenser tout ça. Là. En général, le discours politique, on a vu en général que même parmi les opposants de la CAQ, par exemple, ou du Parti libéral du Canada, la population apprécie quand même en général ce qu'ils font. Parce qu'ils ont senti que ces politiciens-là travaillent pour leur santé publique, pour la protection.
Alors, les clivages ont sauté un peu, là, c'est ça. Là, on est allé vraiment...
Ça, c'est correct, là, mais dans le sens que pourquoi on fait pas la politique toujours de cette façon? Genre, d'une façon non populiste, non partisane. Est-ce qu'on va continuer de faire comme ça après la crise? Ça, je sais pas.
Alors oui, il y a moins de politicaillerie, de petite politique à l'heure actuelle. Il faudra voir si ça va durer. Hein?
Exact.
Et vous aimeriez que ça continue comme ça. Il y a Greta Thunberg et ses supporters qui auraient aimé aussi que le confinement continue parce que franchement, on voyait les étoiles à Montréal. Hein? Pour ceux qui nous écoutent en région, ça faisait longtemps qu'on avait vu un ciel clair comme ça. Mais malheureusement, William Corbatley, je ne sais pas si vous voyez comme moi aujourd'hui dans les rues, mais ça... Enfin, malheureusement, où je ne veux pas porter de jugement là-dessus, puis peut-être que tout se fait dans les règles, mais on peut dire que ça déconfine un peu, hein, tranquillement, là.
Oui, puis surtout après, le premier ministre lui-même, M. Legault, a dit, bon, là, on commence le déconfinement graduel. Je pense que les gens ont commencé, des gens ont des compréhensions différentes de ce qu'est un déconfinement graduel. On verra comment les choses vont se faire, surtout maintenant à partir de cette semaine-là. On commence le déconfinement à partir de la semaine prochaine, de 4 mai, par la suite les écoles le 11 et en Montréal le 18. Mais bien sûr, j'ai beaucoup de remarques par rapport aux écoles spécifiquement. Là.
Bon, on va y revenir dans un instant. Avant de passer au plus concret de la politique quotidienne, je veux vous demander, vous avez dit que l'épisode actuel nous permet de tirer des leçons sur tout le débat qu'on a eu sur l'inclusion, les convictions religieuses et le reste pendant des mois et des années, là, jusqu'à tout récemment. De quelle façon, d'après vous, parce que ça ne va pas de soi nécessairement. Plusieurs de nos auditeurs vont nous dire « Bon, mais M. Corbatley fait de l'idéologie ici où il essaie de récupérer l'épisode actuel à l'avantage d'une philosophie qu'on présume inclusive ou multiculturelle. » Pourquoi, plus concrètement, d'après vous, actuellement, on apprend que certains débats d'autrefois étaient malavenus?
Mais parce que ça touche, quand on arrive à la santé humaine, là, c'est l'important, et on parle de la santé mentale spécifiquement, là, une raison très spécifique que Dr Arruda l'a invoquée, là, c'est que la santé mentale des gens, surtout pour le déconfinement.
Mm-hmm.
Mais ces questions qui touchent à la diversité, à la discrimination, ça touche leur santé mentale directement. Quand on dit à une personne, tu peux pas faire tel ou tu peux pas faire tel parce que tu crois à tel ou à X ou à Y, et là, il est obligé à faire un choix très difficile pour lui, alors même si pour d'autres, c'est très absurde, mais pour cette personne, c'est très difficile, ça touche sa santé mentale directement. Alors,
oui, mais William Corbatley, on fait tous des compromis et des arbitrages pour faire société, non? Il y a toujours des zones d'interdiction ou de compromis pour pouvoir vivre ensemble. N'est-ce pas justement le but allégué de ceux qui se disent inclusifs? C'est le vivre ensemble, non?
OK. Tu as complètement raison. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des compromis. Mais encore une fois, surtout pour le mot, pour l'expression par idéologie, écoute, moi, je suis un juriste. Quand je défends une discrimination à cause d'un motif X ou Y, je me base sur la charte, sur la jurisprudence, sur tout ça. Alors, là, tu vas même me dire, mais le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est enchâssé aussi dans la conscience elle-même.
Ah, moi, j'ai rien dit, mais c'est vrai que...
Je comprends.
Quelqu'un pourrait vous répondre ça, en effet. Oui, je comprends. Mais...
Alors, est-ce que c'est idéologique de croire à l'état de droit? Est-ce que c'est idéologique tout ça? Mais là, je laisse aux gens de
vouloir, dans ce cas-ci, par exemple, qu'on respecte la Charte des droits canadiennes. Alors là, évidemment, certains vous répondront, mais c'est justement une charte idéologique et on est contre l'idéologie qu'elle véhicule. Bon. Mais c'est une autre histoire. Dites-moi, William Corbatley, mais on comprend, je pense qu'on saisit très bien votre point de vue. Vous êtes libéral, il faut le dire, puis j'ai envie beaucoup de vous poser une question. On va traiter plus tard là, des paradis fiscaux avec Yannick Marcille. On a vu cette semaine Justin Trudeau faire une sorte de reculade. Il s'est avancé un peu en disant que les entreprises qui ont recours à des paradis fiscaux pourraient ne pas recevoir d'aide du gouvernement, mais par la suite, il n'a pas voulu répéter cette phrase. Il est resté dans les généralités. Et là, quelqu'un de l'autre côté de votre famille politique, Marois Risky a critiqué assez durement. Alors, elle est du Parti libéral du Québec, bien sûr. On la connaît pour son combat sur les paradis fiscaux, l'évasion fiscale. Elle a été assez dure envers le gouvernement Trudeau. Comment vous voyez tout ça? D'une part, il y a un peu de dissension dans la famille libérale. C'est pas la première fois qu'on voit ça de Mme Risky. Et d'autre part, est-ce que vous comprenez ce qu'a essayé de faire Justin Trudeau dans ça?
Bon, alors là, par rapport à la réaction de Mme Risky, je peux pas expecter autre que ça. C'est son dada, c'est sa cause à elle. Alors, quand elle fait de la politique, quand elle commente ce genre de politique, elle fait pas de la politique, elle fait ce qu'elle elle suit la cause là, une cause très très chère à son cœur.
Elle se comporte en fonction de ses convictions qui sont au-delà de ses allégeances politiques, autrement dit.
Exactement, exactement. Mm-hmm. Alors,
mais est-ce que ça ne fait pas un peu désordre quand même entre libéraux? Je vous pose la question, c'est pas moi qui déplorerais une telle chose. Moi, je pense que c'est bien qu'à même une famille politique, des gens puissent exprimer divers points de vue. Elle a néanmoins été très dure à l'endroit de Justin Trudeau et de son gouvernement.
Oui, c'est vrai, et ça causait beaucoup de problèmes même au sein du parti lui-même. Bon, au niveau
dans le Parti libéral du Québec, vous voulez dire?
Canada, évidemment, là, c'est que dans le sens que on a questionné est-ce qu'elle est toujours libérale, est-ce que pourquoi cette croisade, etc. Mais encore une fois, c'est que bien sûr, elle a le droit à ses opinions, et en plus, elle est spécialiste là-dessus, là. Alors, quand elle parle de telles choses, elle ne dit pas par idéologie. Mais elle se base sur des faits qui sont très clairs, très actuels, et avec raison aussi, dans le sens que les paradis fiscaux sont un grand problème, mais en même temps aussi, c'est un problème qui est mal expliqué à la population, parce que oui, il y a une nuance là-dessus, c'est que oui, il y a des milliards et des milliards de dollars qui s'échappent au fisc, mais pas en tant que impôt, là, on dit qu'il y a beaucoup de revenus qui ne sont pas déclarés, mais on ne sait pas, si on les déclare, combien d'impôts on va payer là-dessus, et pour les récupérer, combien de l'argent ça va nous coûter en tant que politique pour faire des investigations et des enquêtes pour récupérer cet argent-là. Et ça aussi, ça nécessite la coopération internationale là-dessus. Alors, jusqu'à quel degré on a les moyens, les capacités, les ressources physique et financière pour vraiment aller chercher combien on va récupérer et combien ça va nous coûter pour les récupérer. Alors,
mais il n'empêche, William Corbatli, pardon, que dans un premier temps, en chambre, Justin Trudeau a dit à peu près texto, là, en effet, non, les entreprises qui font l'évitement fiscal ne recevront pas d'aide du gouvernement fédéral. Puis, dès le lendemain, il n'est pas retourné là-dessus. Hein, il a plutôt dit, ben vous savez, on mène un combat contre ça va continuer. Mais c'était plus beaucoup, beaucoup moins clair que la veille, non? Vous n'avez pas remarqué ça, vous?
Oui, mais ça je peux vous expliquer, selon moi, pourquoi.
Allez-y donc.
Parce que la question qui va arriver de suite, OK, comment vous allez prouver que cette personne fait, cette entreprise fait partie de, ou bien met son argent dans des paradis fiscaux?
Ah, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Mais c'est ça, parce que là, ça veut dire que dans une conférence de presse, et les journalistes sont très bons là-dedans. S'il donne une réponse qui n'est pas cohérente ou qui n'est pas exacte, là, tout le monde va sauter là-dessus. Et là, on perd l'essence même de ce qu'on fait présentement si on fait face à la crise. Lui, selon moi, il a annoncé un principe très clair. Oui, ces personnes-là n'ont pas le droit ou bien ne vont pas recevoir de l'aide parce que ils font des évitements fiscaux ou bien d'évasion fiscale. Mmh. Alors, mais à part ça, plus que ça, je pense que au niveau de la communication aussi, c'est pas évident de dire, mais OK, comment vous allez le faire?
William Corbatli, juriste, avocat, conférencier, impliqué dans la famille libérale, un ami de l'émission aussi. On a hâte de vous revoir en studio quand vous serez assez déconfiné pour le faire. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Allez vous confiner et au plaisir.
Oui, je suis déjà confiné.
Oui, c'est ça. Ben, continuez.
Okay,
à une prochaine. Dans un instant, chers auditeurs, nous allons rejoindre Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal. À tout de suite. De retour à Société. Alors, il est chroniqueur au Journal de Montréal, blogueur aussi, on l'entend sur diverses antennes et on le lit sur diverses tribunes. Steve Fortin est avec nous. Bonjour, Steve Fortin.
Salut, Nick. Comment ça va?
Ben oui, très bien, vous aussi. Mm-hmm. Alors, vous avez cette semaine parlé du... Alors, là, on va rentrer vraiment dans l'actualité politique. Vous avez parlé d'un ministre sous surveillance, le ministre Roberge, évidemment, on s'en doute bien, le ministre de l'Éducation, qui doit, bien sûr, faire le suivi de ce plan de déconfinement qui le touche, lui, de près, puisqu'on commence par les enfants, les élèves des écoles primaires. On entend ces annonces à la radio, Steve Fortin, qui souligne que les parents ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. On imaginait du côté du gouvernement qu'un parent sur deux, peut-être un enfant sur deux, donc reviendrait à l'école là avant la fin de cette saison-ci. Sauf que toutes sortes de il semble que des sondages internes là, dans le milieu d'éducation fassent plutôt état de 80% et peut-être davantage de jeunes qui vont retourner à l'école. Est-ce que là, ça ne met pas tout le plan du ministre Roberge, est-ce que ça ne le remet pas en jeu? On voulait de la distanciation, des classes d'au maximum 15 élèves. Ça va devenir un vrai capharnaüm, non?
Oui, bien, si le plan de M. Roberge tenait sur le fait que des parents, tu sais, que des parents refuseraient d'envoyer leurs enfants et qu'on n'avait pas préparé ça au préalable, bien, il y a un gros problème. Puis ce gros problème-là...
Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on avait vraiment sous-estimé?
Ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, ce qu'on me dit, et plusieurs sources au ministère de l'Éducation m'ont contacté, m'ont envoyé toutes sortes d'informations pour me dire, savez-vous quoi? C'est vrai que le ministre Roberge ne pouvait pas savoir qu'il y aurait pandémie au moment où il a aboli les commissions scolaires, mais il a agi très, très rapidement pour congédier tout le monde, puis essayer de secouer ça le plus... il a donné tellement un gros coup de pied dans cette structure-là, puis au moment où la pandémie a frappé, ben on avait accouché de rien pour la remplacer, de rien de concret. Puis moi, j'ai parlé avec un ancien directeur de commission scolaire, un président de commission scolaire, puis ce qu'on me disait, c'était que c'est très difficile. C'est une chose là, si macro là au ministère on dit ben nous on aimerait que ça se passe comme ça, mais si les commissions scolaires avaient été encore actives, on aurait été capable de faire descendre ça pas mal plus facilement. Mais c'est pas.
Mais alors vous êtes en train de me dire qu'il y a peut-être du ressentiment, des inimitiés, d'une forme de ah ben on vous l'avait dit, ah ben vous avez voulu nous.
Pas de cette façon-là, dans le sens où si on a congédié les gens cavalièrement puis qui se sont tournés vers autre chose. Ben là, si on les rappelle, puis on leur dit, ben, serais-tu capable de donner un coup de main, puis tout ça, ça se peut qu'ils aient tout simplement pas, qu'ils soient pas capables de le faire. Ils se sont trouvés autre chose, ils sont passés à autre chose.
Alors que la courroie de transmission soit vraiment rompue là à certains endroits.
Ben, on a eu de la difficulté, en tout cas, dans certaines commissions scolaires, ex-commissions scolaires, on a eu de la difficulté. Et là, tout à coup, on a commencé à faire circuler chez les parents. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont parents, qui ont su ça. Si on a des enfants au primaire, donc il y a des sondages qu'on envoyait, puis on disait aux gens, bon ben, si vous avez 7 jours pour nous envoyer votre réponse. Est-ce que vous pensez que votre enfant va fréquenter oui ou non? Puis moi-même, j'ai 2 enfants au primaire. J'ai répondu oui dans les 2 cas, mais je peux te dire une chose, je me garde quand même toujours une porte de sortie pour me dire, ben si jamais ça évoluait pas, ben on verra, parce que il y a du louvoiement là-dedans. Puis j'ai parlé du ministre Roberge. Permets-moi, Nick, de dire aussi qu'à la lumière de ce qu'on entend depuis quelques heures, je vais mettre aussi, c'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et je le dis là parce que il est dans mon coin, c'est mon député, mais il y a le ministre de la famille aussi qu'on va devoir ajouter à ça. Puis les critiques de l'opposition, notamment les critiques de Québec solidaire et du PQ là-dedans, ils ont frappé fort parce que lui-même, Mathieu Lacombe, ce ministre-là, avait dit pour garder leur place en garderie, les parents n'auront pas à défrayer de frais, même s'ils n'envoient pas leurs enfants, parce que c'est tout à fait légitime que des parents décident dans la situation actuelle, je suis pas prêt moi à renvoyer mes enfants. Puis il l'avait dit au micro de Bernard Drainville notamment, et lui-même a partagé cette entrevue-là. Puis là, au cours des dernières heures, il dit non, c'est pas vrai, finalement, va falloir payer pour garder sa place, même si on n'envoie pas nos enfants. Ben ça, c'est un revirement qui va faire très mal, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, que je connais, qui travaillent peut-être de la maison, mais où il y en a plusieurs aussi que les revenus ont peut-être baissé un peu, que la situation est un petit peu plus difficile en temps de pandémie, peut-être que c'est le conjoint aussi. Puis ça, ce genre de revirement-là, ça enlève la crédibilité à toute l'initiative que ce gouvernement-là prend. Puis Puis, à force de faire ça, puis dans le milieu d'éducation, c'est la même chose, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est bien mal ficelé, tout ça. Puis, dans certaines écoles, ben on laisse le champ libre, finalement, des directeurs généraux d'établissement de dire, ben voilà, nous, on va fonctionner à peu près comme ça. Il n'y a pas de directive clairement établie là, qui s'applique à tout le monde. Puis, ça pourra pas fonctionner. Ça fonctionnera pas si on improvise comme ça, puis si on a l'impression que ça a été mal ficelé, tout ça. Parce qu'on peut pas se permettre ça. Déjà que la décision de déconfiner. Bon, à Montréal, je peux comprendre que les gens disent non, puis si j'étais à Montréal, j'y penserais deux fois, mais à l'extérieur de Montréal, il y a aussi des gens qui regardent puis qui se disent, si jamais ils improvisent trop, ben même si la situation est moins grave, peut-être qu'ils ne voudront pas les envoyer non plus.
Parlons-en de... Alors, d'après vous, est-ce que ce plan-là est-il en péril en ce moment? Est-ce que ce qu'a proposé le ministre Roberge est réaliste à ce moment-ci?
Ben, moi, je pense que le gouvernement se donne probablement la semaine qui vient pour établir deux choses. Premièrement, moi, on me dit, là, il y a des gens qui sont au gouvernement, j'ai des gens qui sont proches du gouvernement, qui travaillent à la CAQ, qui me disent qu'on préférerait ne pas être dans une situation où on confine Montréal puis on déconfine le reste. Ça serait quand même difficile. On aimerait quand même qu'il y ait un plan, quitte à ce qu'il y ait un décalage entre les deux, mais abandonner complètement le confinement à Montréal puis commencer à déconfiner ailleurs.
Là, vous parlez plus seulement des commissions, des écoles. Là. Vous parlez de façon...
Oui, je parle des écoles. Ça serait...
D'accord.
On préférerait éviter ça. Mais l'affaire, c'est que les prochains jours, là, c'est là que tout va jouer, parce que si vraiment on n'est pas capable de faire baisser si la courbe baisse pas, si la situation dans les hôpitaux montréalais ne s'améliore pas, si la situation dans les CHSLD à Montréal ne s'améliore pas, ben ça va être difficile. Puis parallèlement à ça, il y a des gens, il y a des préposés aux bénéficiaires, il y a des cadres aussi, il y a des gens qui disent et qui maintenant sont des sonneurs d'alerte puis disent, ben nous, dans nos CHSLD, dans nos milieux de travail, c'est pas rond, là. Et dans ces circonstances-là, je verrais bien mal, moi, que que la CAQ, là, si ça se passe, si on n'a pas une bonne semaine la semaine prochaine, que la CAQ, il va avoir un changement, d'après moi, là, dans le plan.
Justement, parlons-en de Montréal, parce que c'est quand même au cœur de la question du déconfinement en ce moment. Avez-vous eu l'impression, comme moi, en écoutant cette semaine le Dr Arruda et François Legault, qu'on laissait de plus en plus la porte ouverte à ce que ça ne se passe pas tout à fait le 11 mai comme prévu, là, et les autres dates, qu'on retarde un peu pour Montréal, en fait.
Oui,
on a l'impression qu'on essayait d'ouvrir le robinet simplement en parlant de déconfinement, mais qu'on pourrait peut-être même le refermer avant même que le déconfinement ait lieu.
Oui, j'ai aussi eu cette impression-là qu'on se gardait une porte de sortie, puis en fait, j'espère que c'est ça, j'espère qu'on se garde cette porte de sortie-là. Faut certainement pas, dans le cas présent, agir par idéologie, puis dire, bien, on l'avait dit, on va le faire. Il y a des promesses qu'on aime tenir, puis il y a des ouvertures pour lesquelles on voudrait se garder une porte de sortie. Puis j'espère que ce gouvernement-là va agir dans le meilleur intérêt de la ville de Montréal, de la CMM, de la communauté aussi environnante de Montréal, parce que si on ne le fait pas, puis imaginons le pire des scénarios, il y a une dispersion qui commence à se faire, parce qu'on dit, ben oui, on n'a pas le choix, on rouvre quand même un petit peu l'économie, mais on attend pour l'école. À un moment donné, il faudra trancher. Est-ce qu'on est prêt pour le déconfinement, oui ou non? Est-ce qu'on peut penser à un déconfinement, par exemple, sur la Côte-Nord, puis là où, tu sais, je sais pas, moi, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, là où c'est possible de le faire, puis dire, ben on n'est pas prêt à Montréal. Moi, je vais te dire une chose. J'ai parlé avec des élus de mon coin dans l'Outaouais, notamment dans la MRC de Papineau. Puis un village comme le Lac-Simon, puis il y a bien des gens qui connaissent peut-être le Lac-Simon, c'est un endroit de villégiature très, très prisé. Mais les gens viennent de Montréal, des Laurentides, d'Ottawa. Puis sur une antenne régionale de Radio-Canada, hier, au 97, pour la nommer, on entendait des gens qui étaient fâchés à Montréal, à Ottawa, qui disaient, ben nous, on paye des taxes, on veut aller vers nos chalets et tout ça. Ben on l'a bien vu hier, là, j'ai parlé avec deux commerçants qui me disaient, écoute, c'est plein, c'est complètement plein. Il y avait des barrages routiers, j'en ai pas vu, là, je me suis promené quand même un peu, puis on les voit pas. Les policiers sont plus là, ils ont pas l'air d'être là, puis ça se remplit.
Le voyez ici même, moi, je suis à Montréal, dès qu'on parle, qu'on évoque un relâchement dans les règles avant même que ce soit effectif. Ça arrive déjà dans la rue.
Ben oui. Puis ça, c'est dangereux parce que ça pourrait relancer. On a été épargné dans la MRC.
Mais on imagine que le gouvernement tient compte de ça, non? Monsieur Legault sait très bien que lorsqu'il va à 13 heures dire « Bon, mais là, on commence à penser au déconfinement », qu'à la seconde où il dit ça, il y a des gens qui vont sortir de chez eux, qui vont commencer à agir en fonction d'un déconfinement. Vous savez que les gens sont tannés d'être enfermés aussi, hein, il faut dire ça.
Oui, c'est le printemps, comme on le voit aujourd'hui, là, c'est totalement... c'est difficile de parler de déconfinement, là, c'est incompatible avec le confinement, on dirait, mais imaginons là, que, exemple, les préfets, les maires, que les élus locaux, eux sont là, puis ils parlent aussi en même temps pour leur collectivité, puis ils disent, ben, j'ai pas envie de me réveiller, moi, puis que la principale à Montebello, à Saint-André-Avelin ou à Chenéville, ce soit un désert. Fait que peut-être qu'ils parlent aussi, qu'ils se disent, ben, faudrait relâcher un petit peu. Mais le problème avec ça, comme tu le dis, c'est que si on parle de l'idée, si on évoque l'idée, ce qui va se passer, c'est que on va y aller là, at large, ça va se passer, et c'est ce qui est en train d'arriver ici. Et on me dit que ça fait pas l'affaire de bien des gens. Puis c'est sûr qu'il y a, on se dit dans la collectivité, on a gardé ça en bas de 30-40 cas ici dans toute la MRC, mais si on voit que dans la prochaine semaine, ça grimpe, parce que beaucoup de gens qui sont venus ici, ben ça va avoir un effet boule de neige. Il y a des gens ici qui vont dire, pas sûr que j'envoie mes enfants à l'école non plus. Tout ça, ça va tenir beaucoup du discours du premier ministre dans les prochains jours. J'ai hâte de voir s'il va faire un appel pour resserrer le temps qu'on déconfine, ou s'il va continuer cette espèce d'ouverture au déconfinement qui en appelle beaucoup justement à la libre action.
Là, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut jouer au yo-yo avec la société comme ça? C'est quelque chose quand même, hein, de revenir. Le fameux robinet du docteur Arruda, qu'on ouvre un peu, qu'on referme un petit peu, qu'on ouvre davantage, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça aussi.
Mais est-ce que je ne sais pas si tu as remarqué ça, Nick, mais tout à coup, moi, j'ai vu des gens du Québec qui, il n'y a pas si longtemps, il y a 8 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, se moquaient beaucoup de Doug Ford. Et là, tout à coup, ben, on regarde vers Doug Ford, puis on se dit, il y en a certains qui disent, mais ça, c'est la voix de la raison. Il n'y a pas... Lui, il s'est dit non. Il a dit non complètement, puis il n'a pas entrouvert. Ça a été un discours qui a été, là... tu peux pas avoir plus clair que ça.
Ça reste non jusqu'au jour où on dit oui. Il n'y a pas de... Bientôt, nous pourrons peut-être faire ceci.
Ouais. Et là, ben, il y a des gens qui disent, si j'ai lu moi de quelques chroniqueurs qui disaient, ben voilà, tout à coup on regarde du côté de l'Ontario, puis c'est pas mal plus clair. Et là, j'espère que le message de François Legault, cette semaine, il va falloir qu'il recorde son message, puis qu'on ait vraiment une idée claire, une idée faite de où on s'en va avec ça. Et si ça veut dire, par exemple, qu'on déconfine là où on peut le faire, là où il n'y a pas eu de cas, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs jours. Si on dit ben on va relâcher un peu à certains endroits et non, ben on prendra peut-être l'exemple de la France où on a pris chaque département, on leur a donné un code de couleur qu'on peut changer, puis on dit bon ben à tel endroit oui c'est vert, on peut y aller, il n'y a pas de problème, mais on demande aux gens de respecter ça, puis de respecter aussi dans leur transport à l'intérieur des départements et au-delà de leur département. Ben si on va dans un département rouge, on sait qu'on met tout le monde à risque quand on revient. On peut faire ça au Québec aussi, on peut dire il y a des régions qui sont oranges, il y a des régions qui sont vertes, il y a des régions qui sont rouges. Des régions qui sont rouges, ben il faut les confiner. Puis si ça veut dire que c'est Montréal, ben il faudra confiner Montréal, puis tout faire pour en tout cas en espérant que ça se règle le plus rapidement possible, mais en étant solidaire, mais en sachant que Montréal, ben ça serait mieux que les gens de Montréal demeurent confinés le temps que ça se règle.
Steve Fortin, vous êtes chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal et ailleurs. Merci d'avoir été avec nous ce midi, puis on se reprend très bientôt. À la prochaine. Salut. Dans un instant, chers auditeurs, Frédéric Bérard est avec nous. Nous allons discuter de choses et d'autres touchant la crise de la COVID-19, mais notamment ces commissions scolaires anglophones de Montréal qui, en invoquant la Constitution canadienne, refusent de suivre les directives de déconfinement du ministre Roberge. On apprenait ça hier. Aussi, ce jugement, mais une décision de la Cour suprême du Canada qui refuse d'entendre les camionneurs sikh du port de Montréal qui voulait travailler en portant un turban plutôt qu'un casque. Nous en discutons dans un instant. Alors, il est chroniqueur au journal Métro, avocat également, juriste Frédéric Bérard. Et il est confiné aussi, je pense, ou en quarantaine. Bonjour Frédéric Bérard.
Bonjour Nick Payne.
Merci d'être avec nous ce midi. Dites-moi, on entendait hier, on a lu ce communiqué de presse d'un regroupement de commissions scolaires anglophones de Montréal là, qui s'adressait au gouvernement du Québec et au ministre Roberge en disant « Nous, vos affaires de déconfinement, là, on trouve pas ça très sérieux et nous avons la responsabilité de, par la Constitution canadienne, de nous gouverner comme bon nous semble et de ne pas nécessairement suivre vos directives. » Vous êtes versé dans les affaires constitutionnelles, Frédéric Bérard. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Est-ce que c'est de la politique ou c'est techniquement exact?
Probablement un peu des deux. dans l'optique où l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés protège effectivement le droit des minorités linguistiques officielles, c'est-à-dire les Anglo au Québec, les Franco hors Québec, de pouvoir bénéficier d'institutions scolaires, incluant, lorsque le nom le permet, des commissions scolaires comme telles ou l'équivalent. La Cour suprême du Canada a confirmé par son interprétation, qui était surtout basée en faveur des francophones hors Québec, cela dit, que ces mêmes commissions avaient un pouvoir de gestion et de contrôle qui permet, par exemple, à la minorité francophone hors Québec de se gouverner, d'éviter le plus possible l'assimilation, la freiner, et ainsi de suite. Et évidemment, il y a une équivalence pour les Anglo au Québec. Maintenant, la question qui se pose...
Oui, vous dites évidemment, même si pour plusieurs, le verre est dans la pomme à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est un peu... On a tort de mettre sur le même pied ces deux situations comme si le Montréal était en train d'assimiler les anglophones aux Français, finalement. Là. Et qu'on se sert souvent de cette espèce d'équivalence pour ensuite plutôt restreindre les droits ou en tout cas prendre des décisions moins favorables aux Franco hors Québec, si je comprends bien.
Oui, il y a une thèse là-dessus. Moi, j'y crois pas du tout. J'ai fait mon doctorat, en fait, précisément sur cette question-là, et celle-ci relève du mythe, en tout cas, du moins à mon avis, pour plusieurs raisons là, que j'imagine qu'on n'a pas nécessairement le temps d'expliquer.
Oui, mais on fera une autre émission là-dessus. Parfait.
Oui, mais avec grand plaisir. Mais en fait, la Cour suprême du Canada, du moins, c'est les conclusions de ma thèse, a toujours fait preuve d'un préjugé très favorable aux francophones hors Québec, en vertu de la Charte canadienne, alors que c'est pas le cas du tout en rapport aux Anglo-Québécois. Il n'y a à peu près pas de décision portant sur la Charte canadienne favorable aux Anglo, historiquement parlant, au Québec. Et la Cour suprême a fait preuve d'une asymétrie assez frappante à ce niveau-là. Pourquoi je disais que c'est évident? Parce que l'article 23 parle de minorité comme telle. Donc, s'il y a un problème à y avoir, c'est peut-être celui de la Charte comme telle et non pas celui de l'interprétation de la Cour, mais ça, c'est peut-être un autre sujet, comme vous dites. Ceci dit, où ça devient intéressant, tout ça, c'est qu'on ne connaît pas encore la portée réelle du pouvoir de contrôle et de gestion de manière générique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'il est question d'affaires linguistiques, de protéger la minorité, ça va. Mais lorsqu'il est question d'aller à l'encontre, disons, de lois publiques ou d'intérêts collectifs au Québec ou ailleurs.
En se fondant sur la Constitution, vous voulez dire? Là?
Exact, oui, c'est oui. Ça, exactement. Là, ça devient un petit peu plus, un petit peu plus nébuleux. Par exemple, les commissions anglo au Québec avaient dit au gouvernement Legault, ben, votre loi 21, on ne l'appliquera pas. Et d'ailleurs, ils contestent présentement celle-ci devant les tribunaux, notamment en vertu de l'article 23 dont je viens de vous parler, notamment en vertu du pouvoir de contrôle et de gestion.
Mais dans l'immédiat, ils ont fini par se plier à leur corps défendant, sans doute, à l'application de la loi, non? C'est ça que...
Non, en fait, pour l'instant, oui, parce que celle-ci n'a pas été suspendue,
voilà.
Mais leur contestation demeure, par contre, devant les tribunaux.
Non, mais ça, c'est leur droit, mais j'essayais de compléter ce que vous disiez. Ils ont commencé par dire... On veut rien savoir, puis finalement, bon, ben, dans l'intervalle, d'ici à ce qu'il y ait un jugement sur le fond, il l'applique tant bien que mal.
C'est exact. Et maintenant, pourquoi je vous parle de la loi 21? On en a parlé bien suffisamment, tant qu'à moi, mais je vous en parle parce qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe actuellement, où les commissions nous disent un peu la même chose qu'au début, en fait. C'est-à-dire, nous allons décider quand et comment les enfants reviendront dans les écoles. Actuellement, vous nous mettez en danger, vous les mettez en danger, vous mettez nos profs en danger, c'est excessivement irresponsable ce que vous faites, et ainsi de suite, pour des raisons de santé publique et autres. Et là, bon, évidemment, ils se fondent encore une fois sur le pouvoir de contrôle et de gestion. L'argument est intéressant. Je pense qu'il est intéressant aussi par rapport à la loi 21. Je doute, par contre, que même si cet argument-là est intéressant, il puisse suffire à aller à l'encontre d'une directive, d'une ordonnance, d'un décret, d'un règlement, d'une loi, peu importe, qui vise la santé publique au Québec ou qui vise un truc comme, par exemple, la laïcité de l'État, même si je pense que le concept est faussé, mais ça, c'est autre chose. Donc, je doute que les tribunaux aillent de l'avant avec cet argument-là. Pourquoi? Parce que ça serait un peu, bon, faire en sorte que les commissions puissent se servir du pouvoir de contrôle et de gestion pour faire absolument à leur tête et à leur guise sur tout ce qui leur plaît et sur tout ce qui ne leur plaît pas. Ce qui, à mon sens, est potentiellement un non-sens lorsqu'on ne touche plus les questions de nature linguistique.
Mais dans le cas qui nous occupe, est-ce que les commissions scolaires peuvent, dans les faits, là, en pratico-pratique, dire au ministre « Non, nous, on refuse de suivre vos directives parce que la Constitution nous le permet? »
Ben, c'est un peu ce que je vous dis, c'est que évidemment, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'imagine qu'il y aura, de ce fait-là, éventuellement, un contrôle judiciaire de cette position des commissions scolaires qui sont, et là, ça devient encore plus intéressant parce que celles-ci ont été abolies, on le sait, par la loi 40. Et là, on est dans une espèce de vacuum juridique parce que, bon, il y a un nouveau véhicule qui va protéger les droits prévus à 23, mais celui-ci pas encore clairement établi, on ne sait pas trop. Et c'est un geste de désobéissance civile, essentiellement. Donc, comment un tribunal gérerait ça? Moi, j'ai l'impression qu'il ne donnerait pas trop d'importance à l'argument basé sur l'article 23. Mais ceci dit, les commissions pourraient faire valoir autre chose. Ils pourraient faire valoir l'article 7, par exemple, de la Charte canadienne, ou l'article 1 de la Charte québécoise, qui protège le droit à la sécurité physique, psychologique, la dignité de la personne, sa protection au sens large, sa sécurité. Et là, ça serait autre chose. En d'autres termes, là, ça, c'est un beau panier de crabes pour le gouvernement Legault, parce qu'aller en cour supérieure pour tenter de planter une commission scolaire qui fait de la désobéissance civile, alors que le véhicule de la commission scolaire n'existe plus comme tel, même s'il est protégé par 23, dans un cas où, entre vous et moi, c'est pas un retour, c'est pas une lutte à la pandémie qui est faite actuellement par le gouvernement Legault en ordonnant le retour à l'école, mais c'est plutôt une question de retour à l'économie.
Mais je ne suis pas certain de vous suivre sur une chose. Les commissions scolaires anglophones, elles, existent encore, non? C'est pas justement une distinction, là?
En fait, c'est que le terme commission scolaire sera aboli prochainement. Il y a un autre véhicule qui va être établi. Mais en rapport à l'article 23, oui.
Ah bon?
Mais il y a une autre structure. Et évidemment, le gouvernement Legault, là-dessus, a été très prudent. Et je pense qu'il a bien fait ses devoirs dans l'optique où il souhaitait respecter l'article 23 en question. Ce qui était, tant qu'à moi, très responsable de sa part. Parce qu'autrement, c'est certain que les tribunaux annuleraient une mesure qui viserait à mettre fin à toute forme de représentation de la minorité anglophone. Donc, ça s'appelle commission WOW, puis j'avoue, le nouveau véhicule, son nouveau nom, je m'en souviens même plus.
Franchement, je ne le savais pas.
Mais c'est très technique, là, tout ça.
Ben, vous avez fait un bel effort, Frédéric Bérard, de nous décortiquer un peu, justement, l'aspect technique de cette nouvelle-là. Maintenant, il y a sans doute un aspect plus purement politique. Je vous lis l'extrait du communiqué qui retient mon attention ici. Les commissions scolaires anglophones du Québec tiennent à rappeler respectueusement au gouvernement du Québec. Ça, quand on dit ça par écrit, quand on dit « je veux vous dire respectueusement », d'habitude, ça veut vraiment dire qu'on est pas très content. Au gouvernement du Québec et au ministre de l'Éducation, que nous continuons de faire valoir notre autorité constitutionnelle et juridique de gérer et contrôler notre système, etc., etc., de la minorité linguistique, et qu'il relève de notre responsabilité de prendre les bonnes décisions pour nos communautés. Là, il y a une sorte de séparatisme, non? Il y a vraiment, vous faites vos affaires, nous, on trouve que vous faites pas ça comme il faut, puis on va faire différent.
Ouais, ben, ceci dit, hein, ils sont pas les seuls. Évidemment, ils vont y goûter là, dans certains médias, mais il y a une commission scolaire sur la rive sud de Montréal qui a dit essentiellement la même chose au ministre Roberge, c'est que nous allons décider quand les profs vont revenir au travail. On considère que ça doit se faire de manière graduelle. que nous sommes pas prêts pour faire ça. En fait, ils disent un peu la même chose que les commissions anglo du Québec, à la différence près qu'eux n'ont pas ce pouvoir de contrôle et de gestion.
Et cette référence, disons, communautaire, là, qui n'est pas là, évidemment.
Oui, non, mais c'est ça, exactement. Et je reviens à ce que je disais initialement, parce que je pense que c'est important de bien le saisir, puis remarquer que je peux me tromper, là, évidemment, ça va de soi.
Ah, je pensais que vous aviez toujours raison.
Vous êtes bien gentil, mais je peux parler à plusieurs personnes qui vous confirmeront le contraire très facilement.
Je vais faire mes vérifications, merci de me mettre la puce à l'oreille, Frédéric Bérard, désormais. Va faire attention à ce que vous me dites.
Oui, oui, c'est ça, oui, le désormais de sauver. mais une fois qu'on a dit ça, en fait, moi, je trouve l'argument est intéressant parce que le pouvoir de contrôle et de gestion, c'est un pouvoir qui est important, qui est protégé par la Constitution canadienne, protégé par la Charte, mais ça ne peut pas, et, ben, je ne suis pas juge, là, évidemment, mais ça ne peut pas, à mon sens, avoir pour effet de séparer, comme vous dites, en quelque sorte, les Anglo, la communauté anglo-québécoise du reste de la province, du reste de la nation. Ça, à mon sens, ça va beaucoup trop loin, tout ça. Et donc, évidemment, ils s'en servent actuellement dans le communiqué, puis ça, c'est de bonne guerre politiquement parlant, parce que, évidemment, ce droit-là existe et il est constitutionnel, mais entre invoquer un droit et sa portée et que celle-ci soit reconnue par les tribunaux, là, il y a une sacrée marge et franchement, on n'est pas rendu là. Le problème, c'est que pour le savoir, il faudra que Roberge, le gouvernement Legault, traîne devant les tribunaux les commissions en question. Et là, imaginez le pataclan, parce que le temps d'agir pour eux, le retour aux classes de un serait retardé. Et puis, on sait que les classes se terminent habituellement le 23, 24, 25 juin ou quelque chose comme ça. Donc, ça pour dire que le temps que tout ceci soit entendu, on passera probablement à autre chose. Donc, clairement que le gouvernement Legault a intérêt à embarquer les commissions anglophones dans sa wagon, mais je dirais qu'ils ont l'air assez mal partis, là.
En terminant, il nous reste quelques instants, Frédéric Bérard, un dernier sujet qui va nous rappeler nos bons vieux débats de l'ancien temps, des choses qui nous intéressaient à l'époque, qui semblent désormais tout à fait beige. C'est la Cour suprême du Canada cette semaine qui refusait d'entendre la cause de ces camionneurs sikhs qui voulaient, dans le port de Montréal, être exemptés là, du port du casque pour pouvoir garder leur turban, si je comprends bien. Un jugement de la Cour d'appel du Québec avait été rendu là-dessus. Le jugement reste donc intact. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, vous?
Ben moi, ça confirme ce que je dis depuis plusieurs années. Je ne suis pas sûr que plusieurs écoutent, mais ça, c'est autre chose. C'est que la liberté de religion n'est pas absolue au Canada. C'est faux de dire ça. La liberté de religion s'interprète à la lumière des autres droits et libertés, s'interprète à la lumière des intérêts collectifs, notamment des questions de sécurité, comme dans ce cas précis. Il y a une multitude d'arrêts qui disent exactement la même chose que l'arrêt de la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême du Canada a refusé de l'entendre. Donc, en d'autres termes, elle valide effectivement ce qui a été déterminé par la Cour du Québec, d'appel du Québec, en un sens. Et pour le reste, donc, il y a d'autres arrêts du même genre. Par exemple, la communauté utérienne de l'Alberta qui voulait avoir, qui refusait de mettre sa photo sur le permis de conduire parce que, bon, c'est un péché de vanité ou un truc du genre. La Cour suprême a dit, ben, c'est plate, mais pour des raisons de sécurité, vous allez quand même mettre votre photo ou vous vous passerez de permis de conduire. Et d'autres exemples dans ce genre-là. Donc, tout ça pour dire que, contrairement à la marotte populaire, contrairement à la croyance, la liberté de religion elle est actuellement en recul dans la jurisprudence canadienne. Elle est de plus en plus limitée. L'arrêt Kunaksa aussi, il y a d'autres choses. Donc, moi, je pense que c'est juste une case supplémentaire dans cette espèce d'appréciation-là que, oui, la liberté de religion est importante, oui, elle existe, mais non, elle n'est pas absolue et, oui, elle est relativisée.
En même temps, Frédéric Bérard, est-ce que c'est pas le sauve-conduit idéal pour quiconque veut dire « vous voyez, la liberté de religion n'est pas absolue » parce qu'ici, on est devant quelque chose de binaire. Là, on est vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que la sécurité est en cause. Il n'y a pas d'ambiguïté. On n'est pas comme, par exemple, devant la personne qui prête son serment de citoyenneté avec un signe religieux quelconque. Là, la sécurité est en cause, donc c'est facile de départager.
Je vais arrêter là-dessus, Nick, parce que le truc de la citoyenneté dont vous me parlez, ça, c'était une méga twist du gouvernement Harper, tout juste avant d'aller en élection en 2015, où il avait fait ses choux gras de la décision de la Cour fédérale en disant « Regardez, elle peut prêter serment avec son ICAB, c'est écœurant, c'est pas comme ça qu'on vit au Canada, blablabla. » Et le feu avait pris dans la grange très facilement, Alors que, et ça évidemment personne ne l'avait pointé du doigt ou à peu près, la loi sur la citoyenneté canadienne oblige le commissaire à la fermentation d'accommoder religieusement. Bon, et c'est en vertu de ça que la décision de la Cour fédérale a été rendue. C'est une décision d'à peu près 3 lignes, disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, la loi est à cet effet-là. Or, le gouvernement Harper aurait pu très facilement amender cette loi-là, ce avec quoi je serais tout à fait d'accord, par ailleurs, parce que je pense qu'effectivement, tu dois prêter serment de manière...
À visage découvert.
Ouais. Tout à fait. Ceci dit, et ça, c'est une autre subtilité que les médias rapportent assez peu, mais le serment, dans ce cas-ci, avait été fait à visage découvert. C'est seulement quand elle assistait à la cérémonie qu'elle portait, justement, le niqab en question, le voile en question. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des nuances à apporter et on a fait beaucoup, beaucoup de démagogie au Canada, au Québec aussi.
Frédéric Bérard, merci de ce. On se croirait en 2019. C'est très, très, très curieux. Ces anciens débats complètement dépassés. C'est un plaisir de discuter avec vous.
C'est quand même un plaisir de parler du passé avec vous, Nick Payne, comme toujours.
Retournez à votre quarantaine. Merci, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro et avocat. Dans un instant, nous discutons avec Yannick Marcille, Paradis fiscaux. Alors, il y a peu, on apprenait que le Danemark et la Pologne, notamment, à l'heure où les gouvernements un peu partout dans le monde là, distribuent des milliers de milliards de dollars pour venir en aide aux entreprises pendant la crise que nous connaissons, le Danemark et la Pologne, donc, eux, rendaient conditionnelle toute aide en ce sens à ce que ces entreprises visées n'aient pas recours à des paradis fiscaux ou à de l'évitement fiscal. Dans le cas de la Pologne, la formulation est différente. On dit que ces entreprises-là doivent payer de l'impôt en Pologne. Enfin, bref, c'est ce qui a mené à une proposition de Québec solidaire, notamment ici au Québec. Gabriel Nadeau-Dubois et Vincent Marissal demandaient au gouvernement de la CAQ d'adopter une telle position. Puis, il y a quelques jours, Justin Trudeau était talonné là-dessus à la Chambre des communes. Il a commencé par dire qu'effectivement, les entreprises délinquantes dans ce domaine n'auraient pas droit à l'aide fédérale. Mais dès le lendemain, il rétro-pédalait dans une certaine mesure. Il pratiquait lui-même l'évitement ou l'évasion langagière ou politique. C'était moins clair tout à coup. En tout cas, à mes oreilles, peut-être que je me trompe. Parlons-en tout de suite avec Yannick Marcille. Il est économiste, il est chroniqueur, il est auteur. Il connaît ça, lui, les paradis fiscaux, puisqu'il a déjà travaillé dans une entreprise elle-même basée dans un paradis fiscal. C'est lui qui me l'a dit. Hein? Je ne lui lance pas je ne lui donne pas un coup dans les jarrets en disant ça. Bonjour, Yannick Marcille. Alors, est-ce qu'on peut, avant de parler de Justin Trudeau qui recule ou qui recule pas, là, quand on veut aider les entreprises dans une période abracadabrante comme celle-ci, c'est parce qu'on veut sauver des emplois aussi, je présume. Est-ce que les compagnies qui ont recours à des paradis fiscaux n'ont-elles pas néanmoins, elles aussi, des employés qui peuvent perdre leur emploi si on ne les aide pas, finalement?
Ben, je pense que c'est le cœur du problème, effectivement. Là, tu le nommes très bien. C'est-à-dire que l'aide à ces entreprises... Une entreprise, là, c'est pas un concept qui habite dans les nuages. Là, hein. C'est à la base des employés qui gagnent leur salaire. Et puis, le programme d'aide salariale du fédéral, comme au provincial d'ailleurs, ça vise à soutenir le salaire des employés. Donc, si on dit qu'on va couper ou qu'on va exclure plutôt ces entreprises-là de ces aides publiques d'urgence, là, disons-le, là, c'est pas
parce qu'elles auraient recours à des paradis fiscaux.
Exactement. gouvernement, oui. Parce qu'elles seraient basées sur... Non pas qu'elles auraient recours, mais qu'elles seraient basées, que leur actionnariat
oui.
serait dans les paradis fiscaux, ben on prive des familles de ce revenu-là. Donc, c'est ça qui est l'espèce de talon d'Achille, de je sais pas comment le nommer, là, c'est qui fait en sorte que moi, j'ai bien de la misère avec cet argument-là, qui, a priori, bien évidemment... est valide, là. T'sais, on s'entend qu'on dit, ben là, il y a des entreprises qui ne payent pas leurs impôts, fait que là, le trésor public va les soutenir, ça fait pas de sens, effectivement. Mais au final, c'est les employés qu'on pénalise, là.
Alors, allons au plus simple, et ce sera peut-être trop simple, je ne sais pas. Est-ce que Québec solidaire ou le gouvernement de la Pologne ou du Danemark, et d'ailleurs, hein, qui sont pas... La Pologne, c'est pas un gouvernement de gauche, là. Ce sont des conservateurs. est-ce qu'on se complaît dans une posture morale qui est difficilement applicable? Parce que des gens vont payer, des gens ordinaires, des employés vont payer le prix. Est-ce qu'au fond, c'est juste pas faisable, ça? Ce que ces gens-là proposent.
Écoute, j'avance avec prudence dans mon jugement là, là-dessus. Là. Puis là, c'est une question, là, c'est même pas mon expertise comme économiste, là, c'est plus comme citoyen. Je te dirais, d'après moi, oui. Parce que mon deuxième argument...
Oui, après, quoi? Oui à ce que je viens de dire, là, c'est-à-dire que c'est... Oui, c'est faisable ou oui, c'est pas faisable?
non, d'après moi, c'est pas faisable.
Ah.
Tu sais, je me dis, c'est comme... Parce que justement, ce que je t'amenais, c'est mon deuxième argument, c'est que les paradis fiscaux, là, ils sont pas juste à l'étranger, ils sont pas juste aux Bahamas, aux îles Caïmans ou au Luxembourg. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, parce que nos lois fiscales permettent des évasions hallucinantes par les fiducies familiales, par le contournement de la loi de l'impôt, qui est une des lois les plus complexes qu'on a dans notre système juridique, il y a un paquet d'évasion fiscale qui se fait sur notre territoire. Fait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être un petit peu se regarder dans le miroir, là, puis arrêter de dire que le méchant est à l'extérieur, que le méchant est dans les paradis fiscaux.
En effet, le Delaware, c'est pas loin d'ici, hein? C'est ça.
Hein?
Le Delaware, c'est pas très loin d'ici.
Non, mais le Delaware, le Québec.
Au Québec même.
Ben oui. Bernard Landry, tu parlais de mon expérience professionnelle, Bernard, c'était dans ce cadre-là, Bernard Landry avait mis sur pied un programme d'évasion fiscale légale au Québec qui s'appelait les centres financiers internationaux, qui était exempt d'impôts pour les salaires des employés et des entreprises du domaine financier. On a un paquet de mécanismes internes qui sont de l'évasion fiscale.
Mm-hmm.
Et donc, il y a des entreprises publiques, dans le sens boursier du terme, là, tu sais, coté en bourse,
mm-hmm.
Qui profitent d'une panoplie de mécanismes d'évasion fiscale au Canada.
Alors, donc, ça veut dire qu'il faut aller en amont, en fait. La position est vertueuse, celle proposée là, de restreindre l'aide aux entreprises dans le cadre de la crise actuelle. Mais ce sont des mesures d'urgence et, en fait, il n'y a pas vraiment lieu de priver les employés touchés de ça. Donc, il faudrait revoir complètement la culture. C'est ça que vous nous dites, Yannick Marcille.
C'est exactement ça. Là, il y a une priorité, là, c'est sauver les familles, hein? Assurer qu'elles payent leur épicerie puis leur loyer, puis le gaz dans leur char. Mais après ça, c'est que arrêtons de nous draper dans la vertu de cet anti-paradis fiscaux-là, parce que notre système financier légal favorise l'évasion fiscale. Et là, c'est pas là dans l'urgence qu'il faut comme tu viens de le dire là, c'est pas là dans l'urgence qu'il faut le régler là. C'est un truc bien plus global et que d'après moi, c'est une mauvaise bataille à livrer présentement. La vraie bataille, elle est de fond, elle est beaucoup plus structurelle. C'est sur cet ensemble de mesures légales et fiscales qui envers lesquels on devrait se battre.
Et là, évidemment, ça implique une coopération internationale, si je comprends bien.
Ben,
on n'est pas sorti de l'auberge si on veut commencer
là.
Ça. Oui.
Oui, on s'entend que ça ne se règle pas du jour au lendemain, ça ne se règle pas en disant « OK, on va changer un paragraphe de la loi sur l'impôt ». C'est pas ça, là. T'sais? Mais c'est justement parce qu'on est dans l'urgence qu'il ne faut pas régler ça maintenant. Là, c'est comme beaucoup plus vaste.
Il nous reste peu de temps, Yannick Marcel. C'est à croire que je vous ai invité seulement pour vous faire dire que Québec solidaire s'était trompé, ce qui serait assez comique. C'était pas le cas du tout, mais je vous pose question insoluble en terminant l'entrevue. Est-ce que nous découvrons tous qu'il y a de l'argent? Il y a plein d'argent. Les gouvernements distribuent de l'argent. On ne sait plus d'où ça sort. Est-ce qu'on se prépare des lendemains catastrophiques, une récession pas croyable? Êtes-vous capable de me résumer une réponse là-dessus en quelques secondes?
En une phrase, je dirais la chose suivante, c'est en deux phrases. La première phrase, c'est que on est probablement dans une récession la pire depuis le début du capitalisme. C'est aussi simple que ça, depuis 1873.
Alors, vous avez fait trop court, vous avez encore quelques secondes. Est-ce que
oui, mais la deuxième phrase,
allez-y.
C'est est-ce que ce seront des lendemains catastrophiques et qu'on ne s'en sortira pas avant longtemps? Ça, je n'oserais pas me prononcer, là, même si j'ai osé le faire récemment.
Alors, quand vous l'avez fait, là, qu'est-ce que vous avez dit?
Ben, la vraie question, c'est la durée. Est-ce qu'on va être enfoncé dans cette récession-ci dans laquelle on est pendant 6 mois ou pendant 2 ans ou pendant 4 ans ou pendant 10 ans?
Parce que les causes ne sont pas les mêmes que les récessions classiques, en tout cas, on peut dire ça comme ça.
La Grande Dépression des années 1929 à 1934, elle a duré donc 4 ans. C'est ça qui fait mal, c'est sa durée.
En effet.
Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir à l'automne?
On s'en reparle, Yannick Marcil. Merci d'avoir pris le temps. Retournez vous confiner, vous quarantiner. Et au plaisir, c'était Yannick Marcil, économiste. Nick Payne au microphone, je vous dis merci, chers auditeurs, et à samedi prochain.